Fantasy Moneyball, une présentation de la Fit Foodie. La Fit Foodie, c'est une entreprise ici qui fait des collations santé à haute teneur en protéines, mais qui goûte vraiment le dessert. Tout est sans gluten, sans lactose, sans sucre raffiné et chaque ingrédient est choisi soigneusement pour vous offrir la satiété et combler tous vos cravings. Vous commandez en ligne et vous récupérez ça facilement dans leur point de dépôt qui se situe à Trois-Rivières, Québec, Lévis et Drummondville. Bref, si vous aimez bien manger sans sacrifier le goût, allez voir leur vaste gamme de produits au lafitfoodie.com. Fantasy Moneyball, saison 1, épisode 14. Jean-François Hervé, comme toujours, sauf la semaine passée, en compagnie de Jean-Philippe Marcoux. Papa Marcoux, comment ça va, mon JP?
Ça va super, un peu plus fatigué que les derniers épisodes, mais très, très, très heureux du déroulement de l'accouchement et tout ça. Donc, on est prêt à recommencer. J'ai pu regarder du football jusqu'à minuit, étant donné que j'avais la garde de l'enfant. Fait que oui,
c'est pratique pour ça, effectivement.
Oui, exact.
Attends, quand il commence à marcher puis à courir, c'est là que les dimanches football deviennent plus compliqués.
C'est ce que je me dis aussi.
C'est ça. Ben écoute, félicitations, JP, en mon nom puis au nom de tous nos auditeurs. Bravo, bravo, bravo. Tu nous as bien manqué la semaine dernière. Mais écoute, on est super content que tout a bien été. Puis ben, salutations également à maman, Noémie. Bravo, qui semble-t-il a fait ça comme une pro et qui va très bien, tout comme bébé Alice. Donc, je peux même donner le numéro d'assurance sociale rendu là. excellent. Fait que ben, vous aurez vu, d'ailleurs, on s'excuse. On essaie de vous tenir au courant là, des changements, etc. On s'excuse de ne pas avoir d'épisode la semaine passée. Il y avait, je pense, une très, très bonne raison. Puis cette semaine, ben, dans l'espèce de folie de tout ça, d'essayer de revenir à notre calendrier habituel, on a passé tout droit pour les conseils sur les waivers hier. On s'en excuse énormément. Hier ou avant-hier, on enregistre les mercredis. Là, possible que l'épisode sorte le jeudi. Fait qu'on est désolé pour ça. Sachez qu'on n'en fera pas une habitude. Là. Il y avait vraiment des circonstances exceptionnelles. Mais on va vite revenir là, avec une, je dirais, un horaire plus régulier, plus prévisible autant que possible dans les prochaines semaines, les prochains mois.
Puis au moins, je pense pas qu'on a manqué grand-chose. C'est sûr que les cas ça. Obvious, vous
c'est
êtes au courant,
de
vous êtes allumé. Les Trey Benson de ce monde, ouais. Vous les avez pris, c'est certain. Puis oui, on s'excuse. Puis on a eu vraiment des beaux commentaires comme les gens attendait notre épisode la semaine passée. Fait que je suis désolé de tout ça. Mais là, je pense, vous, GF, la shop est quasiment fermée là, après
vos
enfants.
Moi, c'est, c'est chop-chop dans pas long. Là.
Ouais. Ouais. Puis nous, on verra s'il y en a un deuxième. Donc, ça n'arrivera pas de sitôt. Fait que inquiétez-vous pas. Puis honnêtement, ça me manquait en simonac de faire ça. Puis je suis très heureux
que
ma blonde...
C'est ça qu'on espérait entendre. Là.
Très heureux que ma blonde aussi me laisse ce matin faire ça. Fait que merci beaucoup.
Ben oui, effectivement. Puis, la solution, d'ailleurs, si vous voulez, là, pour que au prochain enfant de JP qui ait moins d'interruptions de service comme ça, c'est de continuer à vous abonner sur Patreon puis de nous permettre de vivre de cela, de lâcher nos emplois respectifs puis de se consacrer à ça à temps plein. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite, le petit mot pour le Patreon qui continue de grossir. On continue chaque semaine de recevoir énormément de questions. Merci énormément. Merci de nous nourrir comme ça. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. On commence, je pense, à avoir une petite routine un peu aussi. Les start-sit questions à chaque... Maintenant, on les pose le samedi. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on va également faire une rubrique questions pour les échanges. On va mettre sur le Patreon également. Donc, tous les DG, tous les auditeurs là, qui se demandent est-ce que je devrais échanger tel gars, est-ce que je devrais targeter telle personne, vous allez avoir une plateforme pour poser ces questions-là à JP et à moi-même, même si je pense dans les faits, c'est plus pour JP, ces questions-là. Je pense, JP, tu voulais ajouter un petit quelque chose?
Oui, puis tu sais, je trouvais ça intéressant parce qu'on a réfléchi à ça, on en a parlé, mais tu sais, vos questions pour des échanges ou peu importe, premièrement, sont très bonnes. Puis je trouve ça intéressant que les autres les voient parce que vous pourriez nous envoyer...
Oui, ça se peut que ça s'applique à plus
que... Oui, tu sais, c'est les mêmes joueurs qu'on a tous dans nos ligues.
Et si tu te poses une question par rapport à tel gars, souvent, tu n'es pas le seul à te demander la valeur pour le reste de la saison.
100%. Puis, fait que c'est pour ça qu'on va faire un post pareil comme les start and sit. Fait que je ne sais pas quelle journée qu'on va le mettre, mais on va le mettre au courant de la semaine. Puis... toute la semaine, on a la notification quand on a une question. Fait que mettez votre question, on va répondre, puis ça fait vraiment, vraiment plaisir. Par contre, je pense qu'on va le mentionner dans le post, mais j'aimerais vraiment ça que vous mettez votre format de ligue.
Fait c'est sûr qu'on va.
Combien vous êtes dans votre ligue? Est-ce que c'est PPR, FPPR? Est-ce que c'est un annuel ou un dynasty ou un keeper?
Exact.
Parce que tous ces micro-détails-là changent aussi la réponse.
Effectivement. Puis également, tu sais, des fois, d'avoir une idée de votre roster. Tu sais, si vous débattez, changez tel ou tel running back, finalement, on check votre roster, puis vous n'avez aucune profondeur, ben là, on va peut-être vous dire de mettre les breaks et vice-versa.
Très bon
donc,
point.
Très important aussi. Fait que, ben merci. Puis comme d'habitude, je le répète, mais patreon.com/fantasymoneyball, vous pouvez vous abonner. Il y a encore des places early bird qui coûtent très, très, très peu cher pour la qualité du service et des conseils que vous recevez. C'est un investissement très, très judicieux à faire si vous voulez gagner votre ligue de fantasy cette année.
Ça coûte même pas un café Starbucks par mois.
C'est vrai en plus. Puis je vous dirais, en tout cas, on est plus... ça ne vous coûte pas le prix d'un café Starbucks, puis vous avez un café là, indie, tu sais, fait maison, etc. Bref. Donc, avant de commencer dans l'épisode, comme le retour sur la semaine 3, on va parler rapidement des nouvelles blessures d'importance. Donc, au niveau des Chargers, on parlait, tu sais, une des choses qui nous retenait un petit peu par rapport à Marion Hampton, à part le fait que ce n'est pas nécessairement le prospect préféré de JP, il y avait le fait qu'il y avait Najee Harris avec lui dans le backfield. Et bien, Najee Harris... Torn Achilles, out for season, le champ libre pour Omarion Hampton.
Oui, puis il y a eu un très bon match, on va en parler plus tard, ouais. Mais c'est effectivement, avec là, tous nos commentaires avant la saison sur Hampton, on les met dans les poubelles. Son contexte est rendu un des meilleurs, honnêtement, si ce n'est pas le meilleur de la NFL pour un running back seul. Donc, chapeau à tous ceux qui l'ont dans leur équipe. Puis malheureusement, des blessures comme ça, on ne peut pas les prédire. Non, ça serait vraiment le fun de faire la même chose ailleurs, mais...
T'sais, on s'entend, ça paniquait, les owners de Hampton paniquaient après les deux premières semaines. C'est un bon exemple comme quoi les choses peuvent changer extrêmement vite.
Le talent est le même, le contexte a changé.
Voilà. Également, un autre joueur qui s'est blessé pour la saison. On se demande même si c'est peut-être pas la fin de sa carrière, considérant son âge. James Conner des Cards, blessé pour la saison. Un autre qui a le champ libre, Trey Benson.
Oui, ça me fait de la peine, Jeff, de voir ça. Je l'ai vu live, puis tu vois le monde comprendre que sa carrière est vraie. Vraiment possiblement terminé. Fait que c'est triste. C'est le Trey Benson show. Est-ce qu'il va avoir tout ou il va avoir un petit peu de Demarcado et autres? Je ne sais pas encore. Mais écoute, vous pouvez le mettre dans les waivers, peu importe votre format de ligue.
Demarcado, aux grandes dames de ceux qui n'aiment pas quand je mentionne les noms qui sont cool, ça, ce n'est un aussi qui est quand même assez solide, Demarcado. Cela dit, petit bémol que je dirais moi, par rapport à Trey Benson, la différence avec Hampton, tu disais justement le meilleur contexte, l'offensive roule sur les chapeaux de roue, la passing game va bien. On le sait que c'est une équipe qui aime ça courir, qui court bien. Trey Benson, la différence, c'est que jusqu'ici, l'attaque un petit peu plus dysfonctionnelle en Arizona, mettons. On y reviendra, il y a un de nos favoris évidemment de la saison qui déçoit énormément. Moi, je sais que tu es très inquiet, JP, puis moi aussi, honnêtement, ça m'inquiète. Fait qu'on y revient. Un autre blessé quand même d'importance, C.D. Lamb, qui va être un peu au jour le jour là, au niveau de sa blessure.
Ouais, donc paniquez pas pour lui, gardez-le dans votre alignement. J'ai vu beaucoup d'offres de trade qui m'ont été envoyées depuis quelques jours par rapport à ça. Calmez-vous, ça va faire mal quelques semaines, mais il va revenir, puis tout va bien aller. Puis George Pickens n'est pas Calvin Johnson, je le répète.
un autre qui est blessé là, un peu au jour le jour, Terry McLaurin des Commanders.
Ouais, à voir. Fait qu'il n'y a rien de grave pour l'instant, mais gardez un œil là-dessus.
Mike Evans des Buccaneers, la séquence des saisons de mille verges en danger, lui qui s'est blessé, lui aussi une hamstring qui lui fait mal.
Je te dirais qu'il a eu une longue... Ben, il a encore sa longue séquence de 1000 verges par année et aussi une longue séquence de hamstring. Je pense que c'est une blessure qu'il a pratiquement à chaque année. Ouais. L'arrivée de Godwin, c'est supposément d'ici 2 à 3 semaines. Donc, à voir, ça va vraiment aider les Bucks. Mais c'est sûr que ça fait mal à Baker. Honnêtement, c'est le... Oui, Mike Evans, bien sûr, il ne jouera pas, fait qu'il ne fera pas de points. Mais Baker, ça va vraiment l'impacter à court terme.
OK. Tyrann Tracy des Giants, absent 2 à 4 semaines. Bonne nouvelle pour Cam Skidaboo.
Oui, plusieurs personnes pourraient dire qu'il était absent depuis le début de la saison.
Oui.
Mais oui, bonne nouvelle pour Skidaboo, qui n'est pas mon préféré. Il y en a qui s'excitent en raison de la stat line, mais il va tout avoir dans une offensive qui n'avance pas, mais qui a avancé étonnamment dans les derniers matchs. Mm-hmm. Donc, il pourrait payer. Puis... si vous l'avez dans vos clubs, ne vous garochez pas à le trader tout de suite. Profitez-en.
Et toujours avec les Giants, on a un changement de corps arrière au niveau... un changement de starting QB, c'est on tasse Russell Wilson et c'est la recrue Jackson Dart qui va faire ses débuts dans l'NFL cette semaine.
Oui, très intelligent des Giants de faire ça. Je n'ai rien d'autre à dire.
Excellent. Ben, c'est ce qui fait le tour des nouvelles, des blessures d'importance niveau fantasy. Donc, on va se lancer avec notre retour sur les matchs de la semaine 3. On garde la même structure que dans le dernier épisode, c'est-à-dire on va passer à travers chaque match en ordre chronologique et dans chaque match, on va un peu... Oui, vous parlez de l'histoire du match, de qu'est-ce qui a retenu notre attention, des éléments importants, puis également des joueurs. Là, est-ce qu'on s'excite pour tel joueur? Est-ce qu'on panique pour tel joueur? Est-ce qu'on garde le statu quo avec tel joueur? C'est un peu ça qui va être notre format, là, qui va être le même pas mal jusqu'à la fin de la saison. Donc, sans plus attendre, JP, on commence ça avec la game du jeudi soir de la semaine dernière qui opposait les Dolphins aux Bills de Buffalo.
Oui. Puis, on paniquait depuis le début de l'année sur les Dolphins, même avant la saison. Et même s'ils ont scoré un gros 21 points contre les Bills, moi, la panique est toujours là en passant. La def des Bills, elle me fait paniquer, par contre, aussi.
Très ordinaire, oui. Oui,
très, très, très ordinaire. Puis sinon, dans ce match-là, le fait à noter James Cook, c'est fou comment il paye.
Est-ce qu'on s'excite, JP? À quel point qu'on s'excite pour James Cook? Parce que là, c'est un début de saison de malade, là.
Oui, mais en même temps, comme pooler, on ne peut rien faire. Si tu l'as, tu ne traderas pas. Si tu ne l'as pas, tu ne seras jamais capable de payer ce que le pooler a parce qu'il est overvalued en ce moment. Fait que, oui, on s'excite si on l'a, on est vraiment heureux puis on se tape sur l'épaule de l'avoir drafté. Mais la vraie question dans ce match-là, c'est le gars ultra hype après la semaine 1, M. Keon Coleman. On avait eu plein de questions par rapport à lui. Puis quand, je pense que c'est Félix qui nous a posé une question par rapport à Coleman qui disait, tu sais, comment évaluer le joueur, si ça, est-ce qu'il va faire ça toute l'année, comment voir au travers des prochains matchs s'il va faire ça au travers de l'année. Mais regarder ses targets et regarder ses réceptions à chaque match depuis, c'est, tu sais, il a combiné moins que sa première semaine et les deux semaines d'après. Fait que tu vois que les Bills sont les bons vieux Bills des dernières années. Fait que le ballon est réparti sur une trolley, quasiment une dizaine de joueurs. J'ai pas compté, mais comme ça a l'air de 9 à 11 en ce moment, ce que je vois. Puis Coleman...
Dans le dernier match, JP, on a James Cook qui a eu un attrapé. Il y a Ty Johnson qui a eu un attrapé. Khalil Shakir, Elijah Moore, Keon Coleman, Shavers, que je connais pas.
Moi non plus.
Josh Palmer, Dalton Kincaid et House, qui est un tight end. Là, fait que déjà, t'as comme 9-10 pass catchers différents.
Exactement. Fait qu'au final, Keon Coleman va être le même qu'on a vu l'an passé. Donc, la semaine que tu vas pas le starter, que tu vas le mettre sur ton bench, il va faire 80 verges, 2 touchdowns. Tu vas le starter la semaine d'après, tu vas avoir un beau 3-4 20 verges comme cette semaine.
Un gars intéressant en baseball, en annuel, vraiment difficile à savoir quand le starter.
100%. C'est pour ça que quand il y a un overhype sur un joueur, tout d'un coup, c'est souvent la bonne solution de le trader. Fait que si tu as des bonnes offres de trade, je te dirais qu'à 75% du temps, tu vas avoir raison de le trader. Puis oui, il y a des fois, tu vas te mordre les lèvres de l'avoir échangé, mais Coleman, mettons que c'est un peu écrit dans le ciel qu'il n'allait pas faire ça toute l'année. Fait que voilà. Mais je l'aime encore, c'est le même joueur. Fait qu'au final, la semaine 1, c'était pas un flou. C'est lui qui l'a fait. Là. Fait que ne le droppez pas puis ne le laissez pas aller pour rien. Je voulais juste le dire.
Excellent. JP, je pense qu'on peut se transporter maintenant vers le prochain match. T'avais-tu autre chose à rajouter sur Miami-Buffalo? Parfait. Donc, Atlanta-Caroline. Atlanta, on en avait parlé du fait qu'on était vraiment pas impressionné par Michael Penix, vraiment pas impressionné par cette attaque-là. JP, on avait mis dans nos notes la semaine dernière un peu un panique pour Drake London, je crois. Écoute, un match catastrophique à tous les niveaux pour les Falcons. Le seul qui s'en sort pas si mal, c'est Bijan avec son volume, mais outre ça, ça a vraiment... On va se dire, ils ont extrêmement mal paru dans ce match-là. Kirk Cousins a même fait son entrée dans le match à la fin.
Là, ça a fini 30-0, fait que les Falcons...
Contre les Panthers, on rappelle. Hein?
Ah, je pensais qu'ils jouaient contre les Ravens. Oui, je niaise en passant, mais puis demande-moi si les Panthers ont joué un grand match pour le fun.
JP, est-ce que les Panthers ont joué un grand match?
Pas en tout.
Voilà. J'avais ce que tu s'en allais, mais c'est ça qui est le pire. Là. C'est 30-0 contre les Panthers, une équipe qui, avant ça, dans ses deux premiers matchs de l'année, semblait complètement perdue.
Je vais dire quelque chose d'un peu semi-controversé. Penix, en ce moment, je dis pas dans deux ans, mais en ce moment, ne devrait pas starter dans NFL. T'sais, ça me fait un peu penser à un Kenny Pickett. C'est pas parce qu'il est capable de faire quelques trucs de corps arrière starter NFL qu'il est un starter NFL. Ça marche pas. C'est dommage, ça marche pas. La pression vient trop vite pour lui. Mais comme la ligne est pas si mal, la def des Panthers, c'est pas la pire, mais Tabarouette, c'est pas les Seahawks de 2014.
Non, c'est ça.
Fait que moi, j'ai peur pour tout le monde, mais tu sais, vous n'avez rien à faire. Si vous avez Drake London et Bijan, ben gardez-les. Puis ceux qui startent encore Cal Pitts, ben allez consulter.
Ah mon Dieu, ouais. Puis rendu là, faut décrocher.
Puis pour les Panthers, tu sais, dans un blowout comme ça, faut pas oublier qu'il peut y avoir certains joueurs qui déçoivent parce que tu n'as pas besoin de surutiliser True Barber, tu n'as pas besoin de surutiliser Ted McMillan. Fait que ça me stresse pas. Puis Bryce Young ne joue pas très, très bien. C'est pas parce qu'ils ont gagné 30-0 que Young joue du grand football.
C'est plus en dépit de Bryce qu'à grâce à Bryce, cette victoire-là, définitivement. OK, fait que, bon, super. Fait que rien qui change vraiment suite à ce match-là. Le prochain match, vraiment pas un match le fun niveau fantasy football, mais probablement le plus gros upset de la semaine. Les Browns qui l'emportent 13-10 contre les Packers. Il y en a qui avaient déjà trop proclamé les Packers comme la meilleure défensive de la NFL. T'as la gang des Browns qui ont levé la main, qui ont dit « Hey, hold my beer, on aimerait ça, nous autres aussi, être considérés. » Et wow, quelle performance encore de leur défense.
Puis, tu sais, c'est un 13-10, là, fait que certaines personnes dormiraient devant cette game-là. Moi, je l'ai bien aimé. Honnêtement, c'est dans mes préférés de la semaine, fait que j'aime bien ça, des défensives têtes. Beaucoup de déceptions dans ce match-là. T'sais, au final, il n'y a rien qui marchait offensivement. Juste vous dire, là, Joe Flacco, on en a parlé, je pense, trop souvent déjà, mais c'est fini, là, ça marche pas. Fait que c'est sûr que se surexciter pour Jody, Tillman et compagnie, oubliez ça. Fait qu'il n'y a même pas besoin de dire de la panique parce que c'était pas le cas de s'exciter. Par contre, niveau excitement de ce côté-là, Quinshon Judkins, qui risque est bon. C'est le gars que je pensais qu'il allait être dans NFL à 150%. Par contre, il joue de façon puissante, mais je le trouve plus petit sur le terrain, on dirait, que ce que je m'attendais. On s'attendait à un plus gros running back qui prend plus de place, mais non. Mais c'est un très, 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 très bon running back qui, s'il était dans une bonne offensive, il serait drafté top 12 l'an prochain en fantasy. Pour les Packers, mais écoute, tout était off, incluant Jordan Love, qui n'a vraiment pas joué un grand match, là, mais comme vraiment pas. Puis pour les pass catchers, mais écoute, il n'y a rien de spectaculaire. Puis vous pouvez starter à chaque semaine votre Tucker Kraft et Josh Jacobs, mais that's it.
Excellent. Puis pour les owners de Matthew Golden, JP, je sais, tu en as parlé au podcast, c'était pas ton préféré. Tu vois pas en lui l'étoffe d'un vrai wide receiver 1 d'un club là, compétitif dans la NFL. Est-ce que, tu sais, cela dit, je regarde, tu sais, depuis le début de l'année, on lui donne des targets. Il est clairement le numéro 1 dans cette offensive-là. Est-ce qu'il y a lieu, est-ce que ce qu'on voit en ce moment, c'est un peu déjà proche de son ceiling à Matthew Golden, ou est-ce qu'on peut s'attendre à des meilleures choses de sa part pour le reste de l'année?
Cette année, ben écoute, ça se peut que ce soit que ça. En carrière, on y souhaite de s'améliorer. Mais c'est un peu, contexte différent, mais un peu comme les Bills de Buffalo ou les Chiefs de Kansas City. Est-ce qu'ils se détachent tant que ça des autres? Pourquoi tu y donnerais beaucoup plus de targets qu'aux autres? Il n'y a aucune raison. Puis c'est pas un target machine. C'est pas un gars qui joue à l'intérieur pour des tracés faciles contre des zones. C'est un gars extérieur, un speedster intéressant. Fait que je sais pas pourquoi qu'on le surutiliserait. Puis ce que j'ai vu à date, dont son long catch qu'il a fait dans ce match-ci, il manque quelque chose. T'sais, son long catch, ça l'aurait dû être un touchdown. Il est allé par lui-même sans se faire toucher sur les lignes de côté. Et ça, c'était en fin de match. Puis s'il avait joué correctement, c'était un touchdown et les Packers gagnaient. Moi, j'ai rien vu qui m'impressionne. Et c'est un autre gars, encore une fois, quand best ball va être intéressant. Puis tu vas être déçu à chaque fois que tu starts. Fait que, tu sais, pour vrai, en annuel, en ce moment, pour moi, c'est un gars que tu gardes sur ton bench. Et j'aime bien mieux des gars moins sexy que lui sur mon line-up.
Excellent. OK. On se transporte maintenant vers un autre match défensif. Un autre match qui va avoir fait paniquer plusieurs poolers. Celui entre les Jaguars et les Texans. Les Jaguars qui l'emportent 17-10.
Oui, là, il y a quelques paniques, par contre.
CJ Stroud, man, JP, ça non, mais va pas du tout.
J'ai reçu un texto d'un de nos amis, allô Yann, qui me dit Stroud est le pire carrière dans NFL en ce moment. Je suis comme, écoute, c'est débattable. Là. Michael Penix aimerait ça argumenter là-dessus, mais il joue vraiment du mauvais football.
Il mérite d'être dans la conversation actuellement.
Mais comme vraiment du mauvais football.
Ouais, c'est une régression constante depuis sa première saison.
Je sais, je ne veux pas qu'on se répète. À l'épisode 2, on a parlé de Stroud quand on analysait tous les clubs de la NFL. Mais comme sa première année, les gens ont vraiment, vraiment mélangé les statistiques et la vraie vie. T'sais, ce gars-là n'a rien montré d'élite. Je ne sais pas pourquoi que le monde s'attendait qu'il soit élite. Mais c'est un corps arrière à la NFL. C'est un starter. Il joue en dessous de son propre calibre en ce moment, mais calmez-vous, il n'est pas si bon que ça. Moi, j'avais la chienne pour Nico Collins. Finalement, il va s'en sortir, là. C'est correct. Mais pour tous les autres Texans, oubliez ça pour le restant de la saison. Puis startez pas CJ Stroud, quasiment n'importe qui sur les waivers est plus agréable à starter que lui.
Puis un autre qui joue vraiment pas du gros football, Trevor Lawrence, qui n'a pas de step. Il est écoute, rendu là, je pense qu'il faut se rendre à l'évidence. Il est ce qu'il est. Il est ce qu'il va être, Trevor Lawrence.
Très belle analyse, c'est ça. C'est ça, GF. Puis en plus de tout ça, là-bas, ils splittent le ballon avec 4-5 receveurs de passe. Donc, un gros on panique avec Brian Thomas Jr., qui lui-même ne joue pas du grand football. Fait que niveau talent, je le trouve moins bon que l'an passé, moins explosif, moins de chien pour aller chercher le ballon.
Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça, JP? Comment qu'un gars qui a eu une saison recrue quasi historique, là, ils sont, je pense, 5 dans l'histoire de la NFL à des receveurs recrues à avoir fait plus de 1000 verges et plus de 10 touchdowns ou plus. Là. Il est dans des catégories avec Jamar Chase, avec Randy Moss, avec Mike Evans, avec Odell Beckham Jr. Là. C'est un club très, très, très select. Comment t'expliques cette espèce de drop-là? Il y a un gars qui semble manquer de confiance, qui semble être... Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est pas le Brian Thomas de l'an passé qu'on voit. Comment c'est possible? Comment ça s'explique?
Premièrement, le contexte n'est pas idéal, mais plusieurs personnes pourraient dire que c'était la même chose l'an passé. Vous avez absolument raison. Fait que là, après ça, faut regarder l'individu. La seule piste de solution, puis ça n'explique vraiment pas la chose, parce que ta question est vraiment bonne, là, mais son langage corporel, lui et un autre receveur de passe qu'on va parler plus tard, est tellement merdique. Mm-hmm. Il n'a pas l'air d'aimer sa vie. Il n'a pas l'air d'aimer jouer en ce moment. Et tu, mettons, aveuglément, là, tu ne regardes pas les numéros des joueurs. Tu ne sais pas si c'est le numéro 7. Tu ne sais pas c'est qui le numéro 11 avec les Jaguars en ce moment. Mais écoute, tu pourrais penser que le receveur numéro 1 là-bas est Parker Washington. C'est même pas une joke. T'es voir à chaque jeu, que ce soit quand ils ont le ballon ou pas le ballon, tu pourrais hésiter lequel est lequel. Mais ça marche pas. Puis tu sais, c'est un gars, on n'est pas tout seul. Tout le monde qui a une paire de yeux et un cerveau ont vu que c'était un wide elite l'an passé, Thomas. Fait que je comprends pas. Je comprends pas, mais faut être en panique puis envoyer des offres de trade.
Écoute, tu sais, des fois, c'est des humains en arrière de ça. On sait pas qu'est-ce qui se passe dans sa vie personnelle. Est-ce qu'il y a une petite blessure qu'il cache, qu'il traîne depuis avant le camp d'entraînement? On sait souhaite. Pas trop. Y a-tu fait des conneries avec des feux d'artifice le 4 juillet? En tout cas, très inquiétant de voir ça au niveau de Brian Thomas. Puis, tu sais, il y en a, moi, je voyais des gens qui disaient « Ah, tu sais, il fallait s'attendre à ça, ils ont pêché Travis Hunter, deuxième overall, etc. »
C'est même pas ça.
Alors, mais non, mais regardez le dernier match, il n'y a même pas un catch, Travis Hunter, je pense.
Non, il y en a un, puis il y a peut-être une pénalité, mais en tout cas, moi, je l'ai vu. Là,
mais c'est pas lui, là, c'est pas comme si Travis Hunter était tout feu, tout flamme, là, à côté. Mais
il a fait un... Par contre, on va lui donner son catch, un catch pour Travis Hunter, a fait du Travis Hunter. Fait qu'on, comme on parlait avant la saison, fait qu'il reçoit le ballon, tourne du bon côté, des 2-3 premiers pas à 400 km/h et finalement, c'est exceptionnel, mais comme c'est tout. C'est un catch là, pour un deuxième overall.
Oui. Deuxième overall qui a coûté mer et monde en pick.
Solide.
OK. Bref, fait que on se transporte au prochain affrontement. Une dégelée totale. Un autre club là, que... dont nos auditeurs vont avoir bien hâte de t'entendre, JP. Les Bengals se sont fait démolir par les Vikings, 48-10. Jake Browning qui a très, très, très mal paru. Les gens capotent avec Chase Brown, avec Jamar Chase, avec T. Higgins. Nous, la semaine passée, on avait dit « paniquez pas ». Browning a pas mal fait il y a 2 ans quand il a eu à venir en relève de Joe Burrow. Est-ce que ça change suite à ce match-là, JP? Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter pour le suite des choses pour l'attaque des Bengals?
Écoute, on connaît rien, hein? On l'a pas eu. Mais non, sans joke, GF, Vikings, une des meilleures devs de la NFL, il jouait avec le couteau entre les dents. C'est un des matchs qui m'a le plus impressionné. C'est l'unité, en fait, cette semaine quasiment qui m'a le plus impressionné, c'est la def de Minnesota. Je pense que Tom Brady, en 2009, n'aurait rien fait contre eux, là. C'était fascinant, mais oui, il faut s'inquiéter pour les Bengals, ça va de soi. C'est impossible que deux receveurs de passe performent sous un Browning. Fait que c'est certain que Jamar Chase, lui, tout va bien aller. Moi, j'ai vraiment peur pour T. Higgins et Chase Brown. Parce que Chase Brown, c'est un gars de volume et c'est un gars qui, assurément, avait toutes les goal lines. Et c'est encore le cas, mais combien de fois qu'ils vont aller dans la red zone, je ne sais pas. T'sais, Jamar Chase, pour le restant de la saison, c'est peut-être un high-end receveur 2. Fait que, il va finir entre le 10 et 20e receveur de passe pour le restant de la saison. Mettons qu'on enlève son gros, gros match avec Browning et Burrow. Fait que c'est une régression pour tout le monde. Par contre, c'est, faut pas, on peut paniquer, mais de ne pas donner non plus ses actifs des Bengals pour absolument rien. Puis, pour moi, c'est impossible que tout le monde à Cincy a une game où autant de merde offensivement que ça.
Puis, voyons, c'est quoi la question que je voulais te poser par rapport à que, Chase Brown?
Non, tu voulais me demander si... tu parles de Chase Brown? Ouais, Chase Brown, vas-y.
Écoute, j'ai un blanc. Fait que vas-y, JP, puis ouais. Je vais te revenir après.
Ben, je vais parler de l'autre côté. Fait qu'au final, Carson Wentz a paru quasiment mieux que J.J. McCarthy. Ça, c'est pas une bonne nouvelle pour les Vikings. Puis Jordan Mason, quand il a le rôle quasiment lui tout seul, il fait très, très bien. Fait que j'ai hâte de voir pour la suite. Ils ont mis deux autres running backs, mais c'est tout à fait normal parce qu'ils menaient par beaucoup de points. Puis les pass catchers des Vikings, écoute, à voir. Là, j'ai vraiment hâte de voir le retour de J.J. McCarthy, qu'est-ce qui va se passer avec eux. Mais je vois plus le ceiling exceptionnel pour aucun d'eux. Fait que, tu sais, Jordan Addison, que je le voyais quasiment craquer le top 20 avec Justin Jefferson, comme d'habitude, top 3, et un Hawkinson, top 5 tight end. Il y a au moins un à deux de ces cas-là qui n'arrivera pas, si c'est pas les trois. Ça me fait peur et beaucoup de peine.
Par rapport aux Bengals, ça vient de me revenir. Là. Dans le fond, est-ce qu'on a sous-estimé à quel point que leur ligne offensive est médiocre, les Bengals? Est-ce que, je sais que c'est facile, je pense qu'on avait eu des débats là-dessus, JP, au moment où il y avait les négociations de contrat avec Higgins. Moi, je me posais la question, est-ce que c'est vraiment wise de dépenser autant sur deux receveurs de passe? Et en plus de ça, tu payes ton carrière très, 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 très cher. Je comprends que c'est deux receveurs de passe élites, mais est-ce que tu serais pas mieux servi d'en laisser aller un des deux puis d'investir davantage dans ta ligne offensive ou à d'autres positions clés? Je t'avoue, je commence à me poser... ça me trotte en tête, cette question-là, parce qu'on dirait que c'est une constante au niveau des Bengals. Ils ont une bonne attaque, ils ont ça, mais il y a toujours... C'est jamais facile. C'est toujours extrêmement ardu. Peut-être qu'il y a une question de coaching aussi là-dedans. Mais je sais pas, j'ai vois aller puis je me dis, il y a encore la petite voix qui me revient, maudit que moi, en tout cas, je suis pas sûr que j'aurais dépensé autant d'argent sur T. Higgins.
Ah, puis le pire, tu sais, là-dessus, juste vous dire, on a bien pas des débats, des grosses discussions, JF puis moi, puis là-dessus, souvent, plus souvent qu'autrement, on est d'accord au complet et c'est dans les détails qu'on passe 3 heures à jaser, ouais. OK? Puis là-dessus, on était d'accord au fait, c'est que tu me donnes le choix entre un des meilleurs left tackle des 20 dernières années, Joe Thomas et T. Higgins. C'est sûr que je vais signer Joe Thomas. Je vois Rashan Slater avant lui, Sewell des Lions. C'est juste que le problème de la gestion de Cincinnati, ils ne se donnent pas la liberté de signer quelqu'un en ayant mis trop d'argent sur deux receveurs de passe. Par contre, il n'y en avait aucun O-line à mettre là. Puis moi, je te dirais que la O-line, on sous-estime le coaching là-dedans parce que c'est une unité qui travaille ensemble. Fait que c'est sûr qu'on peut détacher un joueur de ligne, surtout les joueurs de ligne extérieurs, c'est un petit peu plus facile à évaluer quand on regarde l'NCAA ou la NFL, mais le jeu entre les 5 gars est beaucoup plus important qu'on pense. Fait que moi, je pense qu'effectivement, il y a peut-être un problème de coaching là. Mais on n'a pas la ligne du siècle. On n'a pas la O-line des Cowboys de Dallas dans le temps de Zeke Elliott, ça c'est sûr et certain. Mais écoute, il y avait quand même du temps pour lancer. Fait que oui, la def des Vikings, c'est vraiment bonne, mais il y avait du temps pour lancer, malheureusement, Browning.
OK, fait qu'on peut même pas mettre ça sur le dos d'une O-line déficiente. OK, prochain affrontement, les Steelers contre les Patriots. Les Steelers qui l'emportent 21-14, un autre affrontement qui nous a laissé un peu sur notre faim.
Oui, beaucoup de fumbles du côté des Patriots. C'est une game honnêtement vraiment plate. Là. Il y a quand même des scores, mais moi j'ai trouvé ça vraiment terrible à regarder. Autant les deux offensives, il n'y a aucune exécution de qualité selon moi. J'ai noté par contre un gros on panique puis un petit on s'excite sur le side parce que dans la game il n'y a rien pour s'exciter mais pour le futur oui. Fait que le on panique c'est DK Metcalf qu'on en a je pense même parlé dans le dernier document, là, je ne veux pas me tromper, mais tout ça pour dire que c'est pas le target machine qu'on s'attendait et qu'au final Rodgers a toujours eu en carrière un gros receveur de passe qui a tous les targets. puis il joue pas du grand football. Fait que à date, il est sauvé par des touchdowns par-ci, par-là, mais sinon, c'est que 3 catchs, 32 verges le dernier match. Là. C'est assez fou. Là. Enlever les touchdowns, c'est un désastre. Mm-hmm. Puis, pour moi, on s'excite. Là. C'est deux beaux gros fumbles, dont un dans Red Zone de Ramondre Stevenson, ton chum. Donc, le load de Trevion Anderson a déjà commencé à monter et va monter de plus en plus. Et tu vois la différence de qualité entre ces deux gars-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais on a donné des ballons à Antonio Gibson et lui aussi a fait un fumble. Puis Vrabel, c'est de l'école de Bill Belichick. Fait qu'au final, tu peux courir 3 verges, avoir aucun high-end speed, mais si tu ne drops pas le ballon, tu vas toujours jouer. Fait que moi, j'ai l'impression que c'est un beau buy low en ce moment, Anderson.
Ah ouais, t'as cette impression-là, JP?
Ouais, et d'ailleurs, j'ai tradé pour un matin.
C'est ça que je pensais, ouais.
Puis, tu sais, Hunter Henry, je ne l'haïssais pas avant le début de la saison, mettons dans des vraiment deep leagues ou surtout en baseball, que lui, je l'ai beaucoup là-dedans. Mais bref, ça pour dire que Hunter Henry ne vous excitez pas, dans le sens qu'il va avoir quelques matchs.
Il y a toujours des games comme ça chaque année,
c'est Hunter tout à fait
Henry,
normal.
Ouais. Puis, il n'y a jamais de constance.
La seule question que je me suis toujours posée, il est tellement fiable comme target. Pour vrai, il était tout le temps libre dans ce match-là. Pourquoi qu'il n'est pas tout le temps plus utilisé que ça? C'est ça que je me demandais en fin de semaine.
C'est le principe de Peter rendu là, tu sais?
Qu'est-ce que tu veux dire?
Le principe de Peter, c'est que chaque personne dans sa vie va s'élever jusqu'à atteindre son niveau d'incompétence. Fait qu'il y en a. Et puis c'est un peu revenir au fait que il y a des gars qui performent super bien comme Change of Pace Back. Il y a des gars qui performent super bien comme Wide Receiver 2. Mais si tu leur demandes d'en prendre plus, ils seront plus aussi bons, ils chaîneront plus autant parce qu'ils étaient bien dans ce rôle-là. Ils étaient déjà à leur plein potentiel. Là, tu leur en demandes plus, ils atteignent leur niveau d'incompétence.
Fait qu'au lieu d'appeler ça le principe de Peters, pour les auditeurs, on peut appeler ça le principe de Zach Moss.
On peut appeler ça le principe de Zach Moss, ça marche. Ça marche aussi.
Mais ouais, OK. Oui, mais c'est possible, JF, oui.
OK. Excellent. Un match quand même intéressant au niveau offensif, celui entre les Eagles et les Rams. Les Eagles qui ont fait une remontée spectaculaire et qui l'emportent 33-26.
Chris, de bon match, ça. Avec les kicks bloqués des Eagles. Là. Je pense que c'est Jordan Davis qui a fait ça, le gros 90. C'était assez fascinant. Là, ça l'a vraiment comme calmé les ardeurs de beaucoup de poolers. Le match d'A.J. Brown devant T. Smith, qui est beaucoup plus agréable que ce qu'on a vu les derniers matchs. Saquon, bien sûr, n'a pas payé, vu que ces deux-là ont payé. Fait qu'il n'y a pas de panique là. Pour les Rams, là, je vais faire mon premier mea culpa de l'année. Là. Je me suis vraiment fourré sur une prédiction, JF. C'est Puka Nacua qui était dans nos busts.
Ouais.
Écoute, le talent est exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. Son contexte est aussi exceptionnel. Je m'attendais vraiment pas que ce soit ça. Je m'attendais pas qu'un Devante Adams ait 2, 3, 4, 5 catchs par match. J'étais sûr qu'il en aurait plus. Mais écoute, Nacua, chapeau. C'est vraiment tout un stud. Puis ça va me faire plaisir de passer au travail de toutes nos erreurs de prédiction. Ça, c'en est toute une de ma part. Mais puis se vanter de nos bonnes prédictions, moi j'aime moins ça. Là. Fait que j'aime ça, tu dis c'est où nos erreurs. Fait qu'au final, Nacua, là, c'est un stud. Là. Point final.
Cela dit, tu sais, JP, une des choses qui inquiétait beaucoup avant la saison, c'était l'état de santé de Matthew Stafford. Parce qu'on s'entend que sans Stafford, c'est vraiment pas la même game.
C'est vrai.
Jusqu'ici, ça tient. On s'en parle rendu à mi-saison de quoi ça a l'air.
Ouais,
en tout cas.
T'as raison. Puis juste calmer quelques personnes. Karen Williams, il est encore bon. Là. Fait que c'est pas un speedster. Il l'a jamais été. Puis Blake Corum, il est juste là en change of pace. Fait que si vous pouvez trader pour Karen, allez-y. Parce qu'il y a certaines personnes qui paniquent. Puis je sais pas trop pourquoi.
OK. Le message est lancé, tout le monde. Donc, on se transporte maintenant à l'affrontement entre les Buccaneers et les Jets. Un autre affrontement très serré. Les Buccaneers qui l'ont pas eu facile, mais qui l'emportent 29-27 et qui maintiennent leur fiche parfaite, sont maintenant 3-0.
Oui, game starté par Tyrod Taylor pour les Jets, qui a fini avec 23 passes complétées de plus que Justin Fields la semaine d'avant. on rit, là, mais c'est Tyrod Taylor, tout un backup corps arrière. Là. Moi, j'ai toujours bien aimé ce gars-là, mais il est pas... En fait, JF, écoute, ton principe de Peters, c'est Tyrod Taylor.
Oui, c'est un bon exemple.
C'est
un excellent backup. Il peut venir faire la job pendant quelques matchs, mais tu peux pas lui demander d'être un starter sur une saison complète.
Ouais, impossible. Puis juste dire, le jour qu'on va faire nos épisodes spéciaux sur les positions, comme exemple, c'est quoi un bon corps arrière, je pense qu'on va faire un segment sur c'est quoi un bon backup corps arrière. Et Tyrod Taylor, pourquoi qu'il y a autant de jobs que ça aussi longtemps dans l'NFL, c'est un bon backup carrière. C'est un autre coach, coordonnateur offensif, en fait, pour l'équipe. Et il est là pour aider au QB1 à se développer. Puis tout l'entourage l'aime. Il est là avec respect. Il est ultra content d'être là comme backup. Il ne va jamais chialer. Au final, c'est l'idéal pour un coaching staff et surtout pour le starter. Fait que chapeau, moi, je l'aime beaucoup. Puis beaucoup de respect pour ce gars-là. Rien à dire sur les Jets dans ce match-là. Par contre, les Buccaneers... Bucky Irving, très peu efficace, mais très utilisé. 25... Attends, je vais te dire ça.
Je l'ai
c'est
ici. C'est quoi, 25 courses? 25
non,
courses
mais je pensais pour... que c'est une erreur.
Non, 25, 25 courses, 66 verges, 4 réceptions sur 4 targets pour ouais. 33 verges.
Fait que tu sais, les Jets, c'est pas la dev du siècle. Fait que tu sais, l'efficacité n'est pas là. Mais je l'aime, tu sais, il est bon. Là. Fait que c'était pas un bitchage sur le joueur en début de saison quand on annonçait un bust. Il a beaucoup de talent, le gars. Il paye... pas tant que ça. Fait que finalement, on dirait qu'on va avoir peut-être raison avec lui. Mais bref, c'est un gros talent. Puis en dynastie, let's go aller chercher. Là, je voulais faire un... Autant qu'on va être négatif sur un receveur tantôt. Là, je voulais parler d'un gars que je suis comme plus qu'excité. C'est un gars qu'on a parlé longtemps avant la saison. Même notre premier épisode, on en a parlé. Mm-hmm. À l'heure... Fait que,
un gars qui avait un hype débordant ouais. autour de lui avant la saison aussi. Là.
À la minute 68 du premier épisode qu'on a parlé de lui. Fait que si vous voulez aller chercher ça, fait que 1 h 02 minutes. Fait qu'il y avait un hype démesuré avant la saison. Je ne sais pas pourquoi. Je m'en souviens quasiment plus. Mais il y avait toujours eu un... Pas un hype, mais comme c'est un bon joueur de football, il était repêché en avril. Puis comme il faisait partie du draft, mais personne ne s'emballait dessus. Mais écoute, ce qu'on a vu à date en NFL, Emeka Egbuka... pour moi, déjà est un wide elite. Puis elite...
Ah, bah ouais, OK.
Elite, on parle... Pour moi, c'est la coche au-dessus d'un Terry McLaurin ou un DJ Moore à son pic. DJ Moore, est-ce qu'il est encore à son pic? Ça, c'est une question qu'on va peut-être essayer de répondre tantôt. Mais bref, il est terriblement bon. Il a des flashs élites. Il y a quelque chose de vraiment spécial dans son jeu. Il domine sur le terrain. Il est tout le temps libre. Et même que dans son... Je ne vais pas y aller trop technique, mais dans son route running... Il n'est pas encore assez crisp, dans le sens que il pourrait être plus sec dans ses mouvements de direction. Il tourne un peu trop rond, il n'est pas assez carré. Il pourrait avoir encore plus de séparation, puis c'est sûr qu'il va y arriver. Fait que c'est un genre de gars que l'an prochain pourrait être un wide 1 ou au pire un wide 2 fantasy. C'est fou. Il est vraiment, vraiment bon. Par contre, je vais juste tempérer les attentes des poolers. Godwin revient, et le jour que Evans revient, ils vont être trop à splitter le ballon. Fait qu'il n'y a aucune raison de l'overfeed. Mais comme on est heureux de voir un nouveau wide possiblement élite en NFL, c'est bon pour le produit.
Excellent. Puis ben, tant mieux à ceux qui ont buy-in dans le hype de Egbuka. En ce moment, c'est sans être. Il n'y a pas de game de 30 points jusqu'ici, mais c'est quand même excitant de voir ça aller jusqu'ici.
Puis juste dire, JF, par contre, en annuel. Il vaut beaucoup plus que qu'est-ce qui est. Dans le sens, vous seriez surpris du retour que vous pourriez avoir pour votre Egbuka. Fait que c'est sûr qu'il faut peut-être en profiter. De là aussi, avec notre Patreon, nous demander les demandes d'échange que vous recevez pour lui, ça serait peut-être une bonne idée. Puis aussi, les autres pooleurs vont pouvoir voir à quel point que le monde exagère pour Egbuka.
Effectivement. OK. On se transporte maintenant vers l'affrontement entre les Colts et les Titans. Les Colts qui l'emportent 41-20. Daniel Jones, qu'est-ce qui s'est passé avec lui dans l'entre-saison? Il joue du très, très, très bon football. Thank God que ce soit lui le starter et pas Anthony Richardson. Merci, merci, merci.
Ouais, c'est un des clubs que j'aime le plus regarder cette année. Puis lundi soir, pendant le match, moi, je regarde tout le temps ESPN2. On peut voir Peyton et Eli Manning, puis ils reçoivent plein d'invités au travers mm-hmm. du match. C'est plus ou moins intéressant, là, en tout cas, certaines personnes. Mais Daniel Jones est allé.
OK.
Puis même dans son non-verbal, il a l'air plus lousse, il a l'air heureux. Il parle des codes, c'est comme... Puis tu sais, Peyton, il a joué là-bas, fait qu'il parlait vraiment comme de tout dans l'organisation. Puis il a l'air heureux là. Puis surtout, tu sais... écoute, on en a tellement parlé souvent, Jeff, mais des fois, là, tu sois un Lamar Jackson, un Daniel Jones, un Tom Brady, que tu as vraiment des qualités spécifiques et spéciales, si le coaching staff n'est pas capable de dealer avec ça puis de les mettre en valeur, c'est peut-être eux le problème. T'sais, Daniel Jones, moi, j'ai l'impression qu'il a été, en parenthèse, scrappé aux Giants. Mais en même temps, on a peut-être aussi un mini Sam Darnold qui surperforme en ce moment par rapport à ce qu'il peut faire. Mm-hmm. C'est tout à fait normal. Mais en ce moment, on ne peut pas dire le contraire, il joue du bon football. Et les Colts jouent du Chris de bon football inspiré sur les trois unités, que ce soit unité spéciale, def et offensive. Et les Titans, c'est pas fort.
Non. Non. Quand même des points, tu regardes comment que la connexion entre Cam Ward et Ayo Manor, c'est très intéressant, surtout si tu as Ayo Manor, par exemple, en dynastie. J'aime ce que le monde jusqu'ici. Puis par rapport à Daniel Jones, je pense aussi, tu sais, on s'entend New York, là, c'est pas facile de jouer dans ce marché-là. Il y a énormément d'attention médiatique. Daniel Jones a été un paria dans les médias au niveau des fans. Il a été largement critiqué. Donc, il y a peut-être aussi un peu une espèce de poids de moins sur les épaules. Et Indianapolis, c'est un marché complètement différent. Ça reste un club de la NFL. Il y a du média, il y a de l'attention et de la pression. Mais par rapport à New York, on est dans un monde complètement différent. Fait que c'est peut-être aussi un meilleur fit pour lui. Je ne suis pas en train de dire qu'il va être top 10 QB le reste de sa carrière. Mais il y a un argument qui peut être fait pour dire qu'il a peut-être trouvé une fontaine de jouvence. C'est peut-être pas juste un flou. Qu'est-ce qu'il nous montre actuellement, Daniel Jones?
Puis aussi, il ne faut pas mélanger la vraie vie et le fantasy. Il performe encore mieux en fantasy que dans la vraie vie. Juste le dire que c'est pas parce que tu fais 2-3 touch-push sur un match puis ça donne 2 touchdowns qu'il a connu un grand match. Tu sais, c'est bien important de le dire. En ce moment, il joue du bon football, c'est un bon corps arrière, mais c'est pas un grand corps arrière. Mais en fantasy, c'est un grand corps arrière.
Ouais.
Et il y a eu des matchs et même une saison complète aux Giants que c'était le cas.
Fait qu'au final, il a donné un très beau contrat suite à ça.
Est-ce qu'il jouait donc bien du football de merde après ça? Il y a tellement de facteurs là-dedans. Mais je pense, il ne faut pas exagérer. Tant mieux si vous n'aviez pas de corps arrière et vous avez ramassé Daniel Jones sur les waivers. Félicitations. Mais c'est pas le genre de... Tu sais, startez pas Daniel Jones avant Jalen Hurts, Jaden Daniels et compagnie pour le restant de l'année. Tu sais, tout finit par se balancer. Tu sais, il y a des carrières comme ça qui vont être un top 5 pendant un bon bout dans la saison. Est-ce que c'est-tu drôle? Il finit la saison à 10-12. Comme ouais. Ça fait du sens. Bo Nix, qui est quoi, 20e en ce moment, va finir peut-être 8e. Mais tu sais, comme tout se balance ouais. Au travail du temps, fait que ne vous excitez pas trop.
Puis un gars, moi en tout cas, que je suis très excité d'avoir en dynastie, que j'aimais beaucoup, Tyler Warren, il joue vraiment, vraiment bien. Puis c'est pas juste comme receveur. En plus, il fait les petites choses sur le terrain, ses blocs, etc. Le genre de truc qui va t'amener comme tight end à avoir encore plus d'utilisation, avoir encore plus de targets. J'aime vraiment, vraiment qu'est-ce qu'on voit de sa part.
C'est ce qu'on tripait de lui. C'est parce que tu peux pas enlever un gars de même du terrain. C'est comme un George Kittle. C'est un 6e joueur de ligne ou un bon receveur de passe si c'est un jeu de passe puis qu'il l'utilise. Puis écoute, il y en a, j'ai entendu ça hein, en passant dans des podcasts et des gens qu'on connaît qui voient ça de façon négative, JF, que le tight end bloque des fois, qui n'est pas juste utilisé en F-type. F-type okay. Tight end, je l'explique, c'est détaché de la ligne comme un slot ouais. Wide receiver.
C'est pas ce rendu là, tu fais jouer un wide receiver.
Voilà.
C'est en tout cas, tu ne joues pas tight end. Là.
Exactement. Moi, j'appelle ça le facteur Devon Funchess. Hein, il n'est pas assez bon pour être un wide, mais pas assez bon pour être un tight end. Mais tout ça pour dire que au final, c'est ça qui est magique d'un Kittle, d'un Gronkowski, d'un Kelsey. Fait qu'il va bloquer sur le jeu, sur le même jeu. Il lâche son bloc, il devient libre pour le corps arrière pour un option play. Et c'est-tu drôle, il finit la game avec 7 catches, 80 verges, un touchdown parce qu'il est utilisable à toutes les sauces comme ça. Fait que chapeau au Colts, c'est un Chris de bon joueur.
Merci, JP. Merci beaucoup. Je prends une partie du mérite vu que je l'ai dans mon dossier, comme je disais. Les Redskins qui affrontaient les Raiders et qui l'ont emporté 41-24 sans Jaden Daniels.
Gros score, mauvaise game. Moi, j'ai pas aimé regarder ce match-là. Les Raiders, une des pires, possiblement même la pire O-line de la NFL. Tu parlais des Bengals, celle-là, c'en est toute une. Genty, qu'on a noté qui était haché la semaine passée, désolé, là, c'est vraiment cru. Mais je te dirais qu'il y a un gros du blâme qui vient de la O-line. Il reçoit le ballon dans le backfield. Il y a déjà deux gars sur lui. Fait que Ladainian Tomlinson puis Barry Sanders ne feraient pas mieux que ça. J'ai pas détesté les moments qu'il y a eu des petites windows pour la course. J'ai pas haï ce que j'ai vu. Mais avec cette ligne-là, je pense pas qu'il va faire la magie cette année, malheureusement. Puis pour toute l'offensive des Raiders, moi, je suis très pessimiste. Trey Tucker, écoute, c'est un peu pas mal un flouk. Puis ça me dérange pas d'avoir tort d'ici un mois s'il fait ça à chaque match, mais comme c'est un peu n'importe quoi. Allez voir, tu sais, là, je dis pas ça pour être méchant, mais comme allez voir les jeux au lieu de juste regarder les stats, vous allez voir qu'au final, le gars est juste totalement libre. Il y a un miss coverage. Il y a juste personne qui est allé vers lui. Pas parce qu'il est stud, juste parce qu'ils ont oublié un gars. Ça aurait pu être Jack Besh, ça aurait pu être Bowers, ça aurait pu être Myers qui a fait ces touchdowns-là. Fait que tu sais, j'ai rien vu de tant de débit de ce gars-là. Puis, je n'ai pas mal rien à dire d'autre sur Vegas. Moi, j'aime pas comment il joue, malheureusement. Puis les Commanders, mais écoute, Mariota a été bien. Un ultra comité running back, même si GCM, alias Bill, est meilleur que les autres. Puis McLaurin ne joue pas du grand football, puis là, il est blessé en plus. Fait que, je sais pas, moi, j'étais assez déçu de ce match-là. Très peu d'exécution pour un gros score comme ça.
OK, j'aime ça. Bon, là, je me suis enfargé dans mes affaires. OK, parfait, on revient tout de suite. Je suis vraiment désolé, les joies de la technologie. On s'en va maintenant à l'affrontement entre les Broncos et les Chargers. Les Chargers, JP, le favori dans la course au MVP jusqu'ici, Justin Herbert. Écoute, tu l'as dit plus tôt qu'on va avoir l'humilité de reconnaître nos erreurs. On ne veut pas non plus claironner quand on avait raison, quoi que ce soit. Mais moi, je vais le dire quand même, Justin Herbert, qui était un de tes coups de cœur au niveau des carrières avant le début de la saison avec Dak Prescott, un de tes targets. Jusqu'ici, écoute, c'est vraiment, vraiment beau à voir aller. Ce qu'on voit de Justin Herbert jusqu'ici, je pense qu'il n'a jamais aussi bien joué depuis le début de sa carrière. Clairement un gars élite, un gars qui est dans son prime. La run game va bien, la passing game va bien, la défensive est solide.
Ouais, ouais.
Vraiment un club que j'aime. On s'entend, c'est les Chargers, c'est les spécialistes de choker puis de bon. De jamais être capable de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble, mais jusqu'ici, tout un début de saison pour les Chargers.
Oui, puis Herbert a le meilleur entourage niveau coach, meilleur entourage niveau arme de sa carrière, puis il en profite. Il y a certaines personnes qui n'en profiteraient pas nécessairement. Je ne suis pas surpris. J'aimerais vraiment ça être shaky de tout ça, mais je ne suis pas surpris. Je suis surpris, par contre, de la défensive qui joue vraiment très, très bien. Puis, par contre, tu sais, Quentin Johnston, là, écoute, on va arriver sur lui. Il n'y a pas tant de mains que ça. Ils sont déjà meilleurs que l'an passé, mais vous regardez tous ces catchs-là. Je ne sais pas comment on dit « bubbles », ça, le ballon, mais comme le ballon, c'est pas comme DeAndre Hopkins que le ballon arrive, les mains…
Colle direct.
Oui, ouais, il y a les mains en triangle, colle direct, met son ballon en position puis commence à courir. Quentin Johnston, c'est une aventure chaque fois qu'il reçoit le ballon, pour vrai. Ce n'est pas un wide elite. Puis moi, qu'est-ce qui me… En tout cas, une petite note pour la dynastie. Qu'est-ce qui m'encourage vraiment de Johnston, c'est que, pour mettons Trey Harris, c'est que ce rôle-là est vraiment important pour les Chargers et Justin Herbert. Ça ouvre le terrain pour Keenan Allen puis McConkey et pour la course. C'est comme, il y a une symbiose en ce moment dans l'offensive. Puis Johnston, même s'il y avait moins de stats que ça, même à ça, les defs n'ont pas le choix de le suivre puis de stresser pour ses longs tracés. Fait que je trouve ça... Honnêtement, c'est quasiment du génie cette offensive-là parce qu'il joue l'intérieur, puis boum, on t'envoie un ballon au-dessus de la tête, puis on mène le match, puis au final, on peut te retuer avec la passe. Comme je sais pas, je trouve ça fascinant, je trouve ça vraiment cool, puis j'espère enfin que ce club-là gagne le grand match.
Il y en a qui vont être contents d'entendre ça, JP. Moi, il y a une chose, par exemple, une chose que je ne comprends pas. Puis, regarde, on avait dit avant le début de l'année, attention, Ladd McConkey, bust alert, Keenan va venir manger dans son assiette. Mais là, moi, ce que je ne comprends pas, JP, c'est que c'est pas juste de venir manger dans son assiette, c'est le target numéro un, Keenan Allen. Il est gavé de target, gavé d'attention. Le gars n'avait même pas de contrat, n'avait même pas d'équipe 2 semaines avant le début de la saison. Je comprends là, que... Tu sais, il y a une connexion avec Herbert, c'est un gars, quand, tu sais, ce qui a toujours été, il l'est encore, Keenan Allen, ça n'a jamais été un marchand de vitesse, c'est juste un gars extrêmement intelligent qui est peut-être un des meilleurs route runners dans l'histoire de la NFL. Mais JP, ça te surprend-tu de voir cette utilisation-là? Il me semble que ça, tu sais, je comprends qu'il puisse avoir un partage entre lui et Ladd, mais de là, est-ce que Keenan soit à ce point-là featured dans l'offensive? Ça, je t'avoue, ça me jette un peu à terre.
Ben, à ce point-là, oui. Puis, tu sais, je m'attendais bon, à un melting pot, mais au final, si tu... Si
tu sais, JP, rapidement, là, ouais. 10 target match 1, 7 target match 2, 11 target match 3, là, c'est...
Là, tu parles d'Allen, bien
je
sûr.
Je parle de Keenan. Oh, je parle de Keenan Allen.
Puis après ça, là, tu te dis, il y a beaucoup de clubs qui donnent au gaz, qui n'avaient pas de slot wide receiver à la Chief qui aurait dû signer.
Je comprends pas. Comment c'est, d'un, comment t'expliques quand c'est tu le vois performer? Épais. Comment ça se fait que ce gars-là n'avait pas de contrat deux semaines avant la saison? Ça, c'est
difficile. Puis aussi, là, un autre affaire football 101, mais comment tu peux aller surpayer un wide receiver pendant que tu as un gars de même qui est dans la rue qui va accepter ton 1 an 12 millions? Là? Je ne vais jamais comprendre
ça. Tu parles des Chiefs. Pourquoi Juju Smith-Schuster avait un contrat et pas Keenan Allen? Non, mais pour vrai, tu sais.
Ça, c'est une crise de bonne question, Jeff. En tout cas. Mais je ne sais pas. C'est une bonne question. Pourquoi, que, mettons, l'AD est sous-utilisé? C'est une très, très, très bonne question. Si on s'entendait à un bust, puis on pourrait bien faire un tour de piste de victoire puis avec les bras levés, mais comme là, c'en est triste. Là. À quel point, c'est pas vrai. Là, c'est...
Il n'est pas absent du plan de match. Il y a quand même 7 targets dans ce match-là, mais il n'y a pas. Il est la troisième option. Il est même pas. C'est même pas juste d'être la deuxième. Il y a deux gars, Quentin et Keenan, qui sont plus utilisés que lui.
Il ne faut pas oublier de dire troisième option dans un club qui idéalement court en premier. Mm-hmm. Puis tu sais, en ce moment, il est en FPPR, 49e receveur de passe. Puis je vois pas tant d'amélioration venir. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un ultra buy low. Ça serait intéressant, mais comme pour moi, il est instartable. C'est fucked up. Là. On parle d'un gars repêché en 2-3e ronde. C'est assez fou.
Ouais. OK. Niveau Denver, tu as des choses à ajouter, JP?
Mais écoute, le Troy Franklin, c'était pas un fluke là, à Indianapolis. Là, c'est sûr que deux caches 8 verges, ça déçoit toutes les personnes qui l'ont starté. Puis Courtland Sutton a enfin eu un match. Mais tu sais, des fois, ça donne de même. T'sais, Sutton était plus libre, ça a bien marché. Il n'y avait pas un stud corner dessus. Bonix ne joue pas du grand football. Ça, je te dirais qu'on a un... Pas en rouge, mais en orange. Là, on aurait... Ben, écoute, ça fait avec les Broncos, ça. C'était pas voulu. Mais un petit on panique avec Bonix. Niveau stats, oui. OK, il y a quelque chose à paniquer avec ça. Mais au niveau football... Je trouve qu'il y a moins de vision. Puis, on dirait qu'il n'est pas qu'il y a la chienne, mais il ne pense pas à courir quand les options ne sont pas là. Puis, quand il fait, c'est d'une facilité à la Jaden Daniels pratiquement. Fait que je ne comprends pas pourquoi il ne fait pas plus. Mais j'ai l'impression, tu sais, à gager un gros 2, ce qui va être meilleur ou moins bon que ce qu'on a vu en 3 matchs, il va être meilleur le restant de l'année. Puis, ils ont une belle offensive. Là, ils ont rencontré tout un club de football. Puis, demande-moi donc, c'est qui le starter running back à Denver pour le fond?
C'est qui le numéro 1, JP? C'est un comité, cette affaire-là?
Oui, non, c'est ça. Lead? C'est un comité avec J.K. Dobbins qui a
avec
tout.
Avec J.K. Dobbins et J.K. Dobbins.
Oui, c'est ça.
All right, OK. Parlant de comité, on se transporte maintenant vers l'affrontement entre les Seahawks et les Saints de la Nouvelle-Orléans. Un match, comment je dirais ça? Un match, tu sais, on a beaucoup fait cas de Kenneth Walker depuis le début de l'année, de Charbonnet, etc., etc. Walker, qui dans ce match-là, 16 carries, 36 verges, 2 TD, qui avait tout pour lui. Est-ce que, comment je dirais ça, JP? Est-ce que ça t'excite? Ça le dit, attends, excuse-moi, je me reprends. Il y a 16 carries, 36 verges, 2 TD, etc. Moi, ce que je remarque le plus, c'est que Charbonnet n'est pas là, mais on a quand même 10 carries à Olani, 2 réceptions. Bref, même avec Charbonnet absent, Walker n'a pas toute la tarte à lui seul.
Et voilà. Rien à dire. On s'attendait à ça. C'est tout à fait normal. Puis c'est un Walker, de ce qu'on a vu à date depuis son premier snap NFL, c'est un gars qui en pitch count va être exceptionnel, mais ce n'est pas un lead back de 25 courses. Contrairement à un running back plus petit, à la Bucky Irving, que je pense qu'il serait déjà plus capable que Walker d'avoir ce load-là. Je ne dis pas que c'est nécessaire et que c'est intelligent de le faire, mais écoute, Olani, là, je ne l'avais pas haï en pré-saison, mais écoute, si tu donnes 10 touches à un gars de même, mais là, c'est sûr qu'il l'aidait un peu, mais je ne sais pas. Niveau fantasy, moi, ça ne m'excite pas Walker, puis ça serait un on panique, bien sûr. Puis les Saints, écoute, c'est pas fort. Il n'y a rien à s'exciter. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de targets et de réceptions pour Chris Olave.
C'est fou. On l'a vu depuis le début de l'année, les targets 13, 10, 14.
Ouais.
Et à chaque fois, tu regardes, tu sais, 13 targets, 10 targets, 14 targets, et tu regardes les verges, 54 verges, 54 verges, 57 verges, aucun TD. Donc, les targets sont là, le volume est là, mais les opportunités qui viennent avec ces targets-là sont pas là. C'est pas des targets de qualité. Je sais pas si je peux dire ça, JP.
Ouais. Puis il y a deux affaires que je voulais ajouter, moi, sur ce match-là. On va possiblement, je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, mais bientôt avoir un changement de corps arrière à Nouvelle-Orléans. Fait que Tyler Sock devrait starter parce qu'au final, les Saints sont 0-3. Sont en liste pour avoir top 5 picks dans la NFL l'an prochain. Fait que tu veux voir ce que tu as comme corps arrière. Là, ils ont une bonne idée pour Rattler. Fait que c'est sûr que Tyler Sock, la misère de son nom. On va l'essayer, on va voir qu'est-ce que ça donne, puis je peux déjà te dire que ça sera pas magique. Donc pour les Saints, ça va être très difficile. Puis pour les Seahawks, je voulais parler d'un gars qu'on avait en très très haute estime, qu'on a même parlé aussi dans notre premier épisode ever au mois de juillet. Torrey Orton, est-ce qu'il est bon? J'ai rien à dire d'autre. Il a fini avec 2 touchdowns, fait un sur les unités spéciales et un sur l'offensive. C'est le vrai receveur numéro 2 en ce moment à Seattle et non le 3, fait que devant Cooper Kupp. Puis normalement, avec le temps, dans la première saison d'un joueur, dans l'NFL, tu lui donnes de plus en plus de responsabilités. Fait qu'au final, s'il y a encore plus de targets, il pourrait faire encore plus de magie. Puis ses targets, à lui, sont plus payants qu'un GSN. Fait que ses targets sont plus loin. Puis il y a plus de high-end speed, je ne sais pas comment dire, mais comme c'est un receveur vraiment extérieur, fait qu'au final, je ne dis pas qu'il pourrait faire plus que JSN, mais il faut garder un œil dessus. Surtout si les Seahawks jouent du bon football offensivement avec Darnold.
OK, excellent. Prochain affrontement qu'on analyse, celui entre les Bears et les Cowboys. JP, les stats nous disent que Caleb Williams a enfin eu un grand match. Mais le high test ne dit pas nécessairement la même chose.
Ouais, tu sais, c'est pas un grand match. Il fait encore plusieurs erreurs. Tu sais, je pense que ça va être ça toute sa carrière. Là. Fait qu'il y a des flashs vraiment de très bons corps arrière. Pas élite, mais très bon. Puis, il y a des petits bugs par-ci, par-là. Puis, on dirait vraiment que ça se passe dans la tête. Tu sais, la mécanique, le talent, il est là, mais comme il y a des petits bugs de cerveau par-ci, par-là. Puis un peu à la Derek Carr, mais de façon différente. Là. Derek Carr, c'était ça. Tu disais, il y a un bon match, tout est beau, 300 verges, 2 touchdowns, bien joué. Est-ce que un pick 6 quand il reste 2 minutes puis il perd le match? Fait que Caleb Williams, c'est peut-être un peu de tout ça. Et ses armes sont vraiment débiles. T'sais, pour vrai, les wide jouent très, très bien. Luther Burden a joué un bon match. Odunze aussi. DJ Moore, mais je pense qu'ils ont compris au quatrième quart qu'il existait. Fait qu'il a commencé à avoir des targets. Peut-être c'était même juste au niveau politique, là, ça c'est à voir.
Est-ce qu'on panique avec DJ Moore? Est-ce qu'il y a lieu de paniquer?
Oui, parce qu'on en a parlé hors micro la semaine passée. Mais ce qui m'excitait beaucoup de DJ Moore avant la saison, puis j'étais pas seul, c'était toutes les pas des trick plays, mais vraiment des jeux précis pour targeter un receveur de passe. Puis tu fais des exemples des tracés croisés de receveurs de passe pour mélanger les débits, puis finalement tu en as un de tes receveurs de passe qui se libère parce qu'ils sont tous mélangés de la défensive adverse. Moi, j'étais sûr qu'on allait utiliser DJ Moore pour faire ça à la Amon Ross St. Brown. Mais finalement, à date, jusqu'à ce jour, c'est Rome Odunze qui utilisait cette sauce-là. Puis ça me fait peur. Ça me fait vraiment, 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 vraiment peur pour DJ Moore. Fait que c'est pratiquement impossible qu'il batte son rang de repêchage. Est-ce qu'il va être un boss? Fait qu'est-ce qu'il va finir, mettons, 5 à 10 rangs plus loin? C'est possible à voir. Mais pour l'instant, je suis très pessimiste. Mais Burden, je pense pas qu'il va finir en avant de lui.
C'est
mais
ça que j'ai là que je m'en allais. Okay.
Non, non. Non, puis il en manque, le Burden. Tu sais que je ne l'ai pas comme prospect. C'était pas mon receveur de passe numéro 1 au repêchage cette année, mais il n'est pas prêt. Là. Il n'est pas prêt à prendre le lot. C'est pas Egbuka. Vraiment pas.
OK. Match super serré entre les 49ers et les Cards. Les 49ers qui l'emportent 16 à 15. Ça, j'ai hâte de t'entendre, JP, parce qu'il y a un de nos joueurs préférés. On a parlé beaucoup avant le début de la saison.
Ouais. On va finir avec lui, mais okay. pour le restant, c'est un match terriblement inintéressant que j'ai pas aimé regarder. Ricky Purcell sans Juwan Jennings avait tout. Donc ça a très bien été pour lui. Mac Jones n'est pas bon, fait que c'est ça. Fait que les deux offensives, ça n'avançait pas beaucoup. Puis pour les Cards, écoute, c'est la grosse blessure de Connor, c'est l'arrivée de Trey Benson comme premier running back. Je ne sais pas s'il va être lead back, mais comme premier running back, assurément. Puis un des plus gros, je ne sais pas si c'est le plus gros en panique de la semaine, mais encore une fois, Marvin Harrison Jr. Comment je pourrais te dire ça? Chris, il est pas bon. Je sais pas comment te dire. C'est vraiment là. C'est un cheval de course un peu sain, mais il n'y a aucune calice d'idée où c'est qu'il s'en va. Fait qu'au final, t'es bien mieux d'avoir une tortue qui sait où qu'il s'en va, mettons un Keenan Allen. Je sais pas comment te dire. C'est comme. Il est tout là. Il a tout pour ça. Pis...
Son drop en fin de semaine, là, c'était.
Non, vous l'avez
horrible.
Tout vu. Si vous l'avez pas vu, allez voir ça, mais c'est pas. L'affaire GF, là, c'est le plus obvious, c'est le plus fou que j'ai vu depuis des années, mais c'est pas la seule drop qu'il y a dans ce match-là et dans les autres matchs. Puis, qu'est-ce qui me dérange beaucoup, j'ai eu une discussion avec notre ami Derek sur lui, puis on jasait de Marvin Harrison, puis tu sais, Marvin Harrison, il est immense. C'est tout un receveur de passe, il a été vanté qu'il était donc bien physique, c'est 6'3", 220, puis il a l'air encore plus gros que ça. Mais moi, ça me faisait penser un peu à, désolé de faire d'aller champ gauche, mais un peu à Juraj Slafkovský, que c'est pas parce qu'il est gros qu'il joue gros. Marvin Harrison Jr.
Moi,
ne joue
qu'il
pas
joue
gros.
Il joue petit, exact. Ouais. Je ne vois pas un gars de 6 pieds 3 quand 220
non,
quand je le vois jouer.
Tu le vois physiquement qui est là, mais comme il joue comme un receveur de passe de 5 et 10,
exact,
170.
Exactement.
Je suis désolé, mais c'est ça.
Ah, je suis 100% d'accord avec toi. Puis c'est une des choses que je trouve le plus inquiétant. Mais JP, Marvin Harrison, avant son repêchage, on en parlait comme un talent.
Générationnel
à la position. Là.
Puis quand tu dis on, c'est tout le monde s'entend.
Ouais, c'est ça, exact. Là, c'était un consensus. C'était comme Marvin Harrison va être. C'était le draft quasiment de Marvin Harrison. Là. Puis, comment expliquer ce décalage-là entre le hype qu'il y avait sur lui, le potentiel qu'il montrait au college, puis ce qu'il montre jusqu'ici dans NFL? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a manqué?
J'ai une bonne piste de réponse là-dessus. Puis moi, j'aime pas ça prendre le crédit quand il m'est pas dû. Fait que je vais le donner à la bonne personne. C'est possible qu'au mois de mars, avril prochain, toi puis moi, on ait une personne qui vienne un épisode ou deux parler de prospect. Et cette personne-là qui s'appelle Hugues Fouché. Fait que salut à toi.
Ah ouais, au nombre de fois que tu m'en parles, JP,
ouais,
il faut pas.
C'est le spécialiste NCAA. À chaque année, je parle de. Tu sais, même avant le podcast, mais on parle des prospects. On adore ça, parler de ça pendant des heures et des heures. Puis. Lui m'avait parlé de Marvin Harrison Jr. puis qui disait qu'au final, toutes ses qualités au final dans NCAA faisaient un peu penser à ce qu'on entend aussi pour le hockey. C'était qu'il jouait contre des gars de moins de talent. Fait que c'était plus facile de les tasser physiquement et tout ça. Mais tout ce qu'il faisait ne se traduisait pas assurément.
Transposait pas bien nécessairement dans la NFL.
Ouais, puis il n'y avait pas tant. Mais tant que ça, de séparation puis tout ça, c'est juste que c'est impressionnant de voir un gars de CC3 courir comme ça. Fait qu'au final, on n'avait pas une dominance comme A.J. Green dans le temps à Georgia, puis effectivement, c'était pas le cas. Ou Julio Jones à Alabama, que si je ne m'abuse, c'est quasiment même le même draft, mais en tout cas, on s'en fout. Fait qu'il n'y avait pas de tout ça. Fait que moi, je voyais rien d'élite à ce point-là, mais comme tu n'avais rien qui disait, selon moi, qu'il allait être peut-être un bust. C'est pour vrai, c'est... C'est que le problème, le physique, tout est là. Il est rapide, il est gros, il fait des bonnes routes et tout ça, mais les mains sont pas là, la tête n'est pas là, puis au final, on voit pas d'amélioration dans son jeu. Moi, c'est ça qui me fait terriblement peur. C'est qu'au final, on jase de fantasy, toi puis moi, mais c'est le football qui explique le fantasy. Puis depuis son premier snap l'an passé comme recrue, moi, je vois pas un meilleur receveur de passe. S'il y avait l'excuse d'être ultra raw, puis d'arriver... dans l'NFL, puis avoir à apprendre beaucoup de choses. Mais là, écoute, ça fait une saison complète, puis un gros off-season que tu peux apprendre mille une affaire, passer 5000 heures à faire du vidéo, puis à faire des tracés avec Baby Kyler Murray. Puis il n'est pas meilleur. Fait qu'au final, tu sais, à gager un petit 2, si ça va être un bust ou pas, moi, je dirais que oui, parce qu'on ne voit pas de progression. Puis le jour qu'on va en voir, je vous dis, on va vous dire. C'est juste que. Nous et beaucoup d'autres, on gageait sur Simonac. C'est impossible qu'elle n'ait pas été un peu meilleure que l'an passé. Puis ce gars-là, il avait déjà beaucoup de targets. Puis il a fini avec quoi? 800 quelques verges, puis 800 quelques verges, puis 8 TD, quelque chose comme ça. Fait qu'on se disait, si le gars il est meilleur, le contexte est aussi bon, pourquoi il ferait si moins bien que ça? Mais écoute, je pense qu'il est bien parti pour être moins bon que ça.
Mm-hmm. 116 targets l'an passé, 62 catch pour 885 verges et 8.
C'est fucked up. Tu dis, OK, t'as ça devant toi. Est-ce qu'il peut avoir 200-300 verges de plus et 1 à 2 TD? Assurément. Et Christy, je ne sais même pas s'il va l'avoir.
Écoute, le seul bémol que j'amènerais de JP à tout ça, c'est regarde ce que Quentin Johnston fait cette année. Qui aurait bêté sur une amélioration comme ça pour Quentin Johnston? Fait que je ne suis pas prêt à lancer la serviette, mais mettons que c'est vraiment... Surtout quand, puis ça ne l'aidera jamais, ça va toujours être une comparaison. Tu sais, il y a un autre receveur exceptionnel dans ce draft-là qui a été repêché quelques rangs après lui, Malik Nabers. Puis Malik Nabers... Oui, c'est ça. Malik Nabers est débile depuis le début de sa carrière, ouais. Archi-dominant. Fait qu'il y a toujours, il va toujours avoir cette comparaison-là. Il va toujours avoir cette comparaison-là, cette pression-là, que t'en as un, t'as l'autre qui a été repêché après toi, qui est déjà, qui joue déjà, qui performe déjà comme un receveur élite. Fait que, écoute, Mais bon, c'est ça. J'essaie de me consoler en me disant, si Quentin Johnston a été capable, que Quentin Johnston, tout le monde était prêt à le mettre aux poubelles. Flop, boss, qu'est-ce qui est pas bon, tatata. Puis là, c'est rendu la cinquième merveille du monde.
Ouais, mais écoute. Mais l'affaire, c'est que Johnston, si je ne m'abuse, est à sa troisième saison.
Ouais.
Sa première saison, c'était plus que terrible. C'était dégueulasse pour un gars fin de première ronde. Mais dans la deuxième saison, dès le premier snap, il était meilleur.
T'as raison.
Tu comprends? Moi c'est là que j'ai la chienne. C'est que, on parle souvent, avant de voir un joueur déjà être un élite, là, fait que tu dis, OK, Justin Jefferson est élite, il est super bon, mais ses premiers matchs dans la NFL, tu vois des flashs. Fait que c'est pas chaque jeu, mais tu vois des flashs qui a de l'air élite. C'est sûr qu'on s'attendait puis qu'on avait un peu peur, mettons, pour Caleb Williams. Hein, je vais pas revenir encore à lui. Mais sa première année, on voyait pas tant de flashs élites. Là, on commence un petit peu à en avoir. Mais Marvin Harrison, je n'ai fuck all rien vu de flash élite. Puis ce gars-là, il est fait pour des back shoulder fade. Fait qu'il allait voir Des Bryant, tous ses touchdowns dans la NFL, c'est quasiment ça. Il est fait pour ça, d'utiliser son physique dans une zone. Il doit avoir 4 targets de même par match. Hein, j'exagère, mais il n'en rentre aucune. Aucune. Ça devrait être, tu sais, des 50-50 balles. Normalement, il faudrait que tu en gagnes 50, Simonac. Lui, c'est plus du 10-90 balles. C'est complètement ridicule.
Bon, OK. On passe au prochain match. Je vais devenir dépressif. Il nous reste deux matchs à parler de JP. D'abord, un match, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Les Chiefs contre les Giants. Les Chiefs qui l'emportent 22-9.
Ouais, 9, puis tu as un Skelebou qui a ultra payé. Fait que félicitations à lui. Russell Wilson jouait pas bien comme tous les autres matchs, à part il y a eu un petit quelque chose à Dallas, on ne sait pas pourquoi.
Ben, Dallas, peut-être.
Puis non, tu as raison, il n'y a pas grand-chose à dire. Pacheco est très ordinaire, puis le running back 1 là-bas, pratiquement, c'est Hunt, même si c'est un split. Les goal lines vont à Hunt en passant pour l'instant. Fait que Pacheco n'est pas startup, puis Tyquan Thornton...
Partez pas en peur.
Non,
si on
non.
Sait, non. C'était la saveur du jour. Non, si ça mais... se peut que la semaine prochaine, ce soit un autre.
Oui, mais on le répète encore une fois. Imagine quand Rashee Rice va revenir.
Ah
oui,
écoute.
Ah oui, puis juste dire, écoute, sur mon papier, en panique rouge, Travis Kelce, c'est terminé.
Ah, c'est fini.
C'est fini.
On avait déjà, moi j'avais déjà l'impression que c'était le cas l'an passé, il traînait son piano, ah, mais ça n'avait pas l'air facile, mais là, je pense que...
Il y a la compagnie de Steinway sur son dos complet.
Tu sais, honnêtement, Noah Gray a de l'air, supérieur.
Non, mais bon point, JF, puis... Chaque fois dans le match, c'est comme « Oh, Chris, enfin, qu'est-ce que c'est? » Ah non, c'est 83.
Ouais, ouais. En tout cas, ben, la fin d'une époque, vraiment.
Ouais.
C'est dommage, mais je ne suis pas trop inquiète pour lui. Je pense qu'il va avoir une très belle après-carrière. Ouais. Il a déjà même commencé, je pense, son après-carrière. Et finalement, on clôt la semaine avec un affrontement entre les Lions et les Ravens de Baltimore.
Ça, j'ai aimé ça. Regardez au complet de A à Z, live, un prime time. C'est rare que je fais ça, mais je l'ai fait avec ma petite fille dans les bras. Fait que c'était bien plaisant. Écoute, nasty match de football, je sais pas quoi dire. Fait que tout le monde qui devait performer a performé. Les deux running backs des Lions, tabarnak.
Il y a juste Jameson qui a pas payé dans ce match-là, mais c'est Jameson. Ils vont avoir des matchs comme ça.
C'est ça, exactement.
Est-ce que c'est le seul truc jusqu'ici? Il n'y a pas. David Montgomery est toujours au cœur du plan de match. Il n'a pas pris de step back par rapport à Gibbs, là, même que je dirais qu'il est plus efficace que lui depuis le début de la saison.
Ouais, mais. Tu sais, au final, step back, moi je pense qu'au niveau talent, il n'y a rien perdu. Puis je repose la question, pourquoi qu'on ne lui donnerait pas autant de touches, mettons, à Montgomery, même que si j'étais les Lions, j'en donnerais plus pour ménager Gibbs. Fait chapeau, man. J'aime tellement ce club-là. Puis...
Ah, la transformation de cette équipe-là entre un de dumpster fire habitué à la cave du classement des saisons de 0-16, 1-15, etc., à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Puis moi, je m'en rappelle, là, quand Dan Campbell a été embauché, le monde riait après sa première conférence de presse. Le monde riait des Lions, disait « C'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce que c'est ça? » Puis ça a pris du temps. Sa première saison, ils ont fini 2-14 ou quelque chose de même, mais ça a été toujours step by step by step, de meilleur en meilleur en meilleur en meilleur. Puis là, écoute, c'est une puissance de la NFL. Ils ont perdu un des meilleurs coordinateurs offensifs de la Ligue. Ça paraît presque pas. C'est vraiment... Moi, je pense que c'est peut-être le club qui donne le meilleur show actuellement dans
la NFL. Ça, GF, aucun débat là-dessus, selon moi. Mais oui, puis Campbell, la première saison, sûrement, si on n'écoute pas la radio de Détroit, mais sûrement comme Martin Saint-Louis l'an passé, a été congédié à peu près 10 fois dans la saison, à sa première saison. Fait qu'il faut laisser le temps aux choses. Puis pour les Ravens, écoute, Zay Flowers est revenu sur terre. Quelle surprise. Il va y avoir un split dans les receveurs de passe.
Mark Andrews qui a voulu comme prouver qu'il était
pas mort. Ouais, ça, c'est comme, oh, Chris Isaiah Likely arrive, fait que je vais être bon. Ouais. Mais il a vraiment joué un bon match. Écoute, il avait l'air plus explosif que tous les matchs l'an passé et cette année. Fait que chapeau. Puis ça peut terriblement aider les Ravens d'avoir Andrews. Puis c'est ça, moi, c'est un très beau match. Puis il faut se féliciter quand on a la chance de regarder un beau match de même versus d'autres.
Puis, ben, merci, JP. Ça fait le tour des matchs de la dernière semaine. Moi, je terminerai l'épisode avec une note positive, une note d'espoir pour nos auditeurs. Puis, je t'invite, JP, à embarquer. Tu sais, c'est la semaine 3. Il y a 3 semaines de fête. Il y a encore beaucoup d'équipes qui sont en train d'établir leurs repères, qui sont en train de mettre en place des systèmes offensifs. Avantage à la défensive encore largement. Mais. Il y a des équipes qui vont se mettre en marche dans les prochaines semaines. C'est toujours comme ça, les débuts de saison. C'est pas facile. Il y a beaucoup de matchs pénibles à voir aller. Dirais-tu, tu sais, qu'en termes de message d'espoir, lâchez pas les gars, gardez espoir. Keep your eyes on the prize. Il y a des gars pour qui ça vaut la peine de paniquer, mais overall, il y a beaucoup d'équipes qui ne nous ont pas encore montré leur plein potentiel.
Oui, puis aussi, tu sais, tu viens de dire, on vient de terminer la 3e semaine, on arrive dans la 4e. Les messages qu'on a fait avant la saison d'être patient avec les nouveaux systèmes, les nouveaux, que ce soit des recrues et tout ça. Mais écoute, on dirait que ça fait 3 mois qu'on a parlé de ça. Puis c'est vrai, le temps passe vite, mais en même temps, c'est comme, on dirait que c'est loin derrière nous, mais on est encore au début de la saison. Tu comprends? Fait que je vous dirais, avant d'ultra paniquer puis de changer de fusil d'épaule, à part pour les recrues, moi, j'attendrais la semaine 5-6. Puis anyway, on fait ce podcast-là à chaque semaine. Vous pouvez nous poser vos questions aussi. Tu sais, c'est sur la rubrique trade. Moi, je suis pas contre. Tu diras, Jeff, si tu l'es, là, mais je suis pas contre qu'on demande, OK, mais écoute, l'offensive, je sais pas moi, des Browns, avance pas. Est-ce que ça va être meilleur quand tel le carrière avec le... On va vous répondre là-dessus. Tu sais, dans le sens, on est là pour aider. Puis des fois, quand il y a des questions qui sont vraiment intéressantes aussi pour tout le monde, mais on va la mettre dans le podcast. Fait qu'on est toujours ouvert. Puis, tu sais, on n'a pas pris de questions à date dans la saison. Puis moi, je ne suis pas contre ça. C'est juste posez-les sous le post des questions de trade sur Patreon. Puis ça va aider à répondre à toutes vos interrogations. Par contre, une affaire que je vais ajouter, moi, je vais y aller dans le négatif. Là. Je me rappelle pas de autant de mauvais jeux des carrières dans la NFL.
Ah, c'est...
Ouais. J'ai rien à dire de plus, ça fait pitié.
J'ai l'impression, JP, que, tu sais, v'là quelques saisons, là, on l'oublie parce qu'on est comme, on s'est habitué à ça, mais v'là quelques saisons, il y a eu comme plusieurs années consécutives qu'il y a eu des ajustements quand même assez intenses au règlement, tu sais, au niveau des corners, qu'est-ce qui est possible d'être fait. T'sais, on a vraiment changé le livre des règlements pour favoriser l'offensive. J'ai l'impression qu'on arrive à une fin de cycle autour de ça, que les défensives se sont réajustées. Ils n'ont jamais été aussi bonnes. Ils n'ont jamais eu accès à autant d'informations avec les nouvelles technologies. Comment est-ce que tu peux disséquer les tapes, etc. J'ai l'impression que ça n'a jamais été aussi difficile aussi être carrière dans la NFL. Peut-être que je me trompe, mais je donne beaucoup de crédit aussi aux défensives pour ça. Puis, je ne serais pas surpris que d'ici quelques années, il y ait des nouveaux ajustements pour favoriser l'offensive parce qu'ultimement, ce qui fait vendre les billets pour la majorité des fans, c'est l'offensive. Ce n'est pas la défensive. Rien contre les défensives, là, mais c'est les offensives. Fait que, puis la position la plus importante pour ça, c'est les corps arrière. Fait que j'ai l'impression, en tout cas, qu'on est peut-être à une fin de cycle à ce niveau-là. Non, parce que c'est non, vraiment rough.
Tu sais, dans le pourcentage des raisons pourquoi qu'on voit ça, c'est peut-être un fort pourcentage. Il y en a un autre que j'ai pensé, vu que t'en parles. T'sais, c'est pas nouveau, là. Ça fait pas 5 ans, ça doit faire 20, 30, 40 ans, je sais pas, on est trop jeune, mais la NCAA ne forme pas de corps arrière prêt à jouer dans l'NFL. Ouais. Dans le sens, c'est des systèmes très, très, très vannés, ultra faciles que le corps arrière n'a pas à gérer l'offensive. Puis tu sais, je vous conseille vraiment de regarder le quarterback sur Netflix si vous ne l'avez pas regardé. Il y a un segment dans la saison de cette année que Goff, Burrow et Cousins expliquent qu'est-ce qu'ils regardent avant le jeu, là. Qu'est-ce qui se passe, mettons, dans les 10-20 secondes. Vous allez tomber par terre si vous n'avez pas vu ça. Mais comme ça, cette préparation-là, mettons, là, je ne parle pas avant le match, là, juste la défensive que tu as devant toi, l'ajustement que tu fais à la O-line, le snap count que tu fais selon telle chose, OK, le audible, fait que tu changes ton jeu. Ouais, tout ça, il n'y a quasiment plus aucun corps arrière NCAA qui fait ça. Tu comprends? Fait que si tu n'as aucun corps arrière qui arrive prêt dans l'NFL à ce niveau-là, il faut que tu le recoaches. Moi, je pense que c'est une autre affaire qui s'ajoute au point que tu as dit.
Ah, c'est un problème pour la NFL, je pense.
Vraiment.
C'est pire. J'aurais tendance à dire que ça va juste aller en s'empirant parce qu'avec les nouvelles règles NCAA, c'est une ligue professionnelle à part entière.
J'ai même pas pensé à ça.
Dans les faits, pour les top prospects, les top prospects à cette heure sont payés. Ils peuvent avoir des commandites. Il y a un partage des revenus aussi à travers des équipes. Fait que tu te ramasses dans un gros club là, qui attire 100 000 personnes par semaine, qui passe à primetime télévision. T'es multimillionnaire avant d'être repêché dans la NFL. Fait que, honnêtement, je pense que pour un joueur de football qui veut jouer, qui a joué au niveau élite toute sa vie, tu veux aller dans la NFL, mais ça reste quand même que je pense qu'il y a encore moins d'incentives qu'avant pour les clubs de NCAA de développer les gars. Tu veux gagner. T'es ta propre ligue professionnelle.
T'as tellement raison.
En tout cas.
Ouais, c'est un bon point. C'est vraiment un bon
moi, point. Moi, ça m'inquiète encore plus pour la suite. J'ai l'impression que ça va perdurer parce que t'as. Pourquoi je mettrais en place un système plus pro qui va me rendre moins compétitif NCAA ou en tout cas. Puis, alors que, je veux dire, je passe en prime time à la télévision comme coach, je payais des millions. Ouais.
Puis aussi, exemple, c'était le coach de Texas, d'Alabama, du Wyoming, l'Université du Wyoming. T'as aucun incentive financier d'envoyer des gars dans la NFL, dans le sens que les Dolphins de Miami vont pas te donner un chèque parce qu'on a drafté un de tes joueurs.
Ah, t'aimes bien mieux que le gars reste plus longtemps puis fasse un taler shot puis joue jusqu'à 26 ans pour toi.
Je le sais que c'est pas tout le monde qui nous écoute, qui suivent et qui regarde la NCAA, mais c'est une industrie pratiquement aussi puissante que la NFL. Vous avez aucune idée.
C'est ça, c'est pour ça.
Puis les coachs les mieux payés
sont payés autant que la NFL ou à peu près. Il y a des gars qui ont longtemps eu. Tu sais, qu'il y avait beaucoup de rumeurs autour d'eux. Ah, ils vont venir dans la NFL, ils vont venir dans la NFL.
Ben
puis ils viennent pas parce que pourquoi t'es vrai? T'as même pas. En tout cas, t'es déjà payé. T'es déjà un multimillionnaire. Puis c'est pour ça, moi, je le dis, je le répète, c'est une ligue professionnelle. C'est pas une ligue professionnelle dans les. Pour tous les. Au niveau de la définition classique, mais dans les faits, c'est une ligue professionnelle. Ce n'est pas une ligue de développement. Puis je pense que ça commence à avoir des impacts au niveau de la NFL, en tout cas au niveau des carrières, certainement.
Christy, bon point. Puis je vous conseille, si vous êtes vraiment aucunement familier avec l'NCAA, et même si vous l'êtes, allez regarder encore une fois sur Netflix le documentaire SEC Football. J'ai dévoré ça en pratiquement une journée, JF. C'est vraiment bon. Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai eu encore plus de plaisir que tous les autres hard knocks, quarterbacks, wide receivers.
Wow, okay.
Ouais, j'ai vraiment trippé là-dessus.
J'ai hâte de, je vais aller voir.
Puis,
ça, c'est sûr.
Il y a comme une vibe. T'sais, mettons, là, t'es QB1 là, à Alabama, tu te fais payer 5 millions cette année, puis si tu restes l'an prochain comme senior, tu fais 5 millions. Ça a l'air le fun de jouer, mettons, dans le CC. Fait que tu sais, est-ce que tu vas tout de suite partir?
Une college life ou à peu près
sur un
en
campus avec des gens qui te détestent au féminin.
Qui idolâtrent.
Ouais.
Ouais.
Moi, je pense que ça peut être intéressant.
Moi aussi, je prendrais mon temps, honnêtement. Dans ces âges-là, tout le kit, je pense que je prendrais mon temps. Je ne serais pas pressé d'aller dans la NFL. OK, ben hey, petit bonus, dans le fond, une petite discussion sur les carrières et le développement NCAA et tout, pour clore l'épisode. Fait que tout le monde, merci d'avoir été là. On se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Merci, JP.
Salut.